Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Bonsoir et bienvenue dans un club sans heure un peu particulier, un peu spécial et pour cause. C'est la trêve internationale et pour nos ruthénois, ils profitent de quelques jours de repos. Mais nous allons revenir sur la rencontre et la victoire de ce week-end contre Grenoble avec Jean-Charles Virlogeux. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec notre invité, c'est Jean-François Tefo. Salut
Jeff. Bonsoir, ravi de vous retrouver dans ces studios parce que d'habitude je suis un peu plus loin que...
C'est ça, vous jouez à domicile pour une fois.
Oui, c'est vrai que c'est assez rare pour être souligné, vous êtes l'homme des extérieurs. On va aborder quelques thématiques durant cette prochaine demi-heure. Avec notamment le retour de Laurent Peyrelade, c'était à Paul Lignon, mais sur le banc de Grenoble. On aura l'occasion également de parler de cette équipe de Rodez, équipe entignée par Didier Santini, équipe à réaction, mais pourquoi est-elle obligée d'attendre le premier but pour ensuite passer à l'action? On essaiera de se poser cette question. On reviendra également sur quelques actions qui se sont déroulées face à Grenoble, dont une action qui s'est déroulée à la 4e minute de jeu. Sébastien Cibois qui s'est, blessé. Certainement volontairement, on aura l'occasion de vous expliquer pourquoi. C'était à la 4e minute de jeu. Et puis on va s'intéresser à Rodez avec cette première question. Rodez qui au moment où on se parle est donc dans le top 5. Rodez, est-ce que l'objectif du maintien est réalisé? Et est-ce qu'on n'irait pas chercher un peu plus loin pour les ruthénois?
Totem, le club sang et or.
Rodez, maintien et plus si affinité. Rodez qui fait partie donc du top 5 du classement de la Ligue 2 au moment où on se parle. Juste devant, donc premier Auxerre, Angers 2e, 3e Saint-Etienne, 4e Laval. Et donc 5e Rodez avec 43 points au compteur. Laval est 5 points devant quand même avec cette 4e position. Il faudra plus regarder derrière pour Rodez que devant puisque Guingamp, Paris FC, Caen et Amiens sont tous à 42 points. Grenoble, l'adversaire de Rodez la semaine dernière, est 10e avec 40 points. Rodez le maintient. Est-ce que c'est assuré pour vous, Jean-Charles Virlogeux?
Alors, bon déjà, en tout cas, ce qui est bien, c'est de regarder derrière quand on est 5e plutôt que 16e. Ça change Rodez. C'est vrai qu'ils sont un peu entre deux feux aujourd'hui. Le maintien, il n'est pas encore tout à fait assuré. Tout le monde dit qu'il faudra sûrement 46, 47 points. Allez, on va dire qu'une victoire de plus et ça sera bon. Moi, je pense que tout dépendra de la vitesse à laquelle ils vont obtenir ce maintien. Si c'est fait dans les deux prochains matchs, c'est-à-dire s'il y a une victoire dans les deux prochains matchs, on pourra effectivement viser plus haut. Sinon, ce que je crains un peu, c'est que on commence à se poser des questions, à se dire on l'a pas encore ce maintien. Et ça pourrait rappeler ce qui s'est passé au printemps 2021. Je sais pas si vous vous rappelez. À l'époque, Rodez avait 36 points après 29 journées. 36 points après 29 journées, à une époque où en plus, on parlait pas de 46 points pour se maintenir. Donc on était à deux victoires probablement du maintien. On se disait quand même en 9 journées on va bien le décrocher ce maintien. Eh bien, il n'y en a pas eu de victoire. Il a fallu des petits points accrochés par match nul. Et jusqu'à la dernière journée, on n'était même pas encore sûr mathématiquement de se maintenir. Le tout, c'est de ne pas se retrouver dans ce scénario. Décrocher le maintien très très vite. Et là, derrière, effectivement, il y a une dynamique qui va rester. Et Kylian Corredor le disait samedi... ils ont envie de gagner tous les matchs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont 5e. S'ils gagnaient tous les matchs, ils le resteraient 5e.
Donc, dans les deux matchs à suivre, déplacement à 3 et réception de Quevilly, déplacement le 30 mars et réception à Paul Lignon le 6 avril prochain. Jean-François, la même question, maintien ou plus si affinité?
Oui, alors maintien, il y a une dualité dans le club. Les joueurs veulent aller plus loin. Ça, c'est clair, pour les fréquenter très, très fréquemment donc, lors de ces déplacements que j'ai la chance de faire avec eux, ils ont envie vraiment de faire beaucoup plus. Le club est un peu assis entre deux chaises. Réalistement, on ne peut pas voir un club comme Rodez en première division, c'est impossible pour des contraintes administratives, financières, économiques, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Ne serait-ce que le stade je vais peut-être faire bondir nos auditeurs, mais le stade qui est très bien pour la Ligue 2 ne serait pas homologué pour la Ligue 1. Parce que il est trop petit, parce que les accès, parce que un tas de conditions, parce
même
que
après les travaux donc.
Même après les travaux, il faut le savoir effectivement. On serait forcé d'aller jouer ailleurs. C'est le délégué du match avec qui j'ai eu l'occasion de discuter la semaine dernière qui me le précisait. Donc le club n'est pas pour aller plus haut. Le club, par contre, verrait d'un bon oeil, je pense, le fait de se retrouver en barrage. Ça serait une bonne chose. Même si les barrages, c'est toujours un peu compliqué, ça coûte cher, parce que souvent, on va à l'extérieur, etc.
C'est le 5e qui se déplace chez le 4e, et ensuite, le vainqueur de cette opposition-là, qui rencontre le 3e de Ligue 2, puis le vainqueur de ces rencontres-là, qui rencontrerait, hypothétiquement, le 16e de Ligue 1.
Voilà. Autant dire qu'avant de monter... Il y a du boulot.
Il y a du boulot. Et donc, étant donné la position de cinquième, on serait amené à aller au moins une, deux, voire trois fois à l'extérieur avant de jouer un match chez nous. Donc, c'est assez compliqué, assez onéreux. Donc, les joueurs le volent, le club se contenterait, c'était l'objectif du président Murat, on avait dit être dans les 10 premiers, la première moitié du tableau, ça serait déjà une bonne chose. Par contre, les joueurs sont extrêmement motivés, et la jeunesse, qui peut être un défaut sur certaines phases de match, comme on l'évoquera peut-être tout à l'heure, eh bien là, est un atout, parce qu'effectivement, il y a une osmose très très forte entre ces jeunes joueurs, qui ont décidé de se montrer, de se faire valoir, qui pensent à leur carrière, qui pensent aussi à l'ensemble des résultats qu'ils ont fait depuis la saison, et qui ont envie d'aller plus loin.
Ouais. Je pense que le coach est de leur côté. Hein.
Aussi.
Lui, pour le coup, il les pousse. C'est lui qui leur a fixé cet objectif, apparemment, il y a quelques temps, auquel ils ne croyaient pas forcément. Sauf qu'aujourd'hui, ils y sont. Hein. C'est du domaine du possible.
Cinquième de Ligue 2 où on se parle pour les Saints et Or. C'est vrai que cette problématique, elle va se poser, justement, éventuelle du top 5, des barrages. Est-ce que finalement, ça ne motive pas que les joueurs ? C'est la question que l'on se posait hors antenne. Finalement, vous y avez un peu répondu, Jeff, puisque oui, les joueurs sont ultra motivés pour être dans le top 5 de la Ligue 2, quoi.
Ah, tout à fait. L'osmose est faite. Tous les joueurs souhaitent vraiment y aller pour des raisons parfois collectives ou individuelles. On s'imagine parfois que les joueurs prêtés, par exemple, n'ont pas trop d'intérêt en disant bon, la prochaine, je rentre dans mon club. Mais les joueurs prêtés ont besoin justement de performer actuellement pour savoir ce qu'ils vont devenir l'an prochain.
Et alors parlons de l'effectif en détail, Jeff. On va s'arrêter quelques instants. On le sait, il y a des joueurs qui arriveront en fin de contrat à la fin de la saison. C'est l'occasion évidemment pour eux de se montrer. On vient en parler, mais c'était aussi évidemment une action en disant au club de Rodez et au staff de Rodez, vous pouvez aussi compter sur moi. Faites-moi confiance pour faire partie de ce projet.
Tout à fait, d'autant plus que les dirigeants ont dit qu'ils négocieraient avec ces joueurs dès que le maintien serait assuré. Donc on n'en est pas loin. Jean le disait, effectivement, deux matchs, trois matchs. Le calendrier est quand même relativement favorable quand on voit la suite de la fin de cette saison avec cinq réceptions pour quatre matchs à l'extérieur. Didier Santini disait en conférence de presse samedi soir qu'avec 55-58 points, on jouerait les barrages. Donc, si on fait le total, 3 fois 15 plus 43 égale 58, si on gagne à la maison, finalement, eh bien, on peut vraiment envisager cette opportunité.
C'est une belle carotte. Hein. Ça fait bien sur un CV, hein, toujours d'être allé en barrage.
Bien sûr, et surtout pour un club comme Rodez, on rappelle que Rodez est en Ligue 2 depuis seulement 5 saisons maintenant. Il y aura quand même des gros hein, dans cette partie de saison. On parle de Saint-Etienne, on parle de l'AC Ajaccio, bon, qui ne va pas non plus très très bien au moment où on se parle de l'AC Ajaccio. Saint-Etienne est sur une bien meilleure dynamique. Annecy, la réception de Annecy, ça sera normalement début mai prochain. Il y aura un déplacement sur la pelouse de Concarneau. Réception du Paris FC également fin avril. Et réception de Auxerre.
Et vous évoquiez le classement. On voit qu'il ne faudra rien lâcher parce que derrière, ça pousse. Ouais, effectivement. Avec des matchs qui se joueront le vendredi, visiblement, au mois de mai. Petite précision.
Pour certains d'entre eux.
Bon, et ça sera comme à la belle époque en national.
Mardi, d'ailleurs. Paris FC sera mardi.
Oui, il y aura des matchs, des semaines chargées pour le Rodez Aveyron Football, effectivement. Donc on aura l'occasion de savoir si ce maintien, le Rodez arrivera à l'acquérir durant les deux prochaines journées, 30e et 31e journée après cette trêve internationale. On va s'arrêter un instant sur un événement qui nous a marqué durant la rencontre face à Grenoble le week-end dernier.
Totem, le club sang et or.
On joue alors la quatrième minute de jeu au stade Paul Lignon. Sébastien Cibois, qui a déjà été l'auteur de quelques arrêts, se couche aux abords de sa surface de réparation, s'arrête, demande au soigneur d'entrer sur la pelouse et se masse le genou droit. Mais finalement, Jeff, ce n'était qu'une pièce de théâtre.
Eh oui, c'était effectivement un scénario convenu, parce qu'il faut savoir que beaucoup de joueurs de l'équipe de Rodez et d'ailleurs de l'équipe de Grenoble donc, sont en période de Ramadan, et donc nécessité de pouvoir s'alimenter lorsque la nuit est tombée. Effectivement, il y avait cette opportunité. D'ailleurs, l'arbitre n'a pas été dupe, je peux vous le dire, pour avoir dîné avec lui après. Il a bien compris que c'était effectivement un fait de jeu un peu particulier.
L'idée étant de casser le jeûne à partir d'une heure bien particulière. Généralement, c'était après 19h. Et donc, ça s'explique pour ce geste-là de Sébastien Cibois. On rappelle que les joueurs qui pratiquent le ramadan ne peuvent ni boire, ni manger durant la journée. C'est pour ça que, évidemment, à partir de 19h, à partir du moment où on peut casser ce fameux jeûne, généralement, quand on pratique ce ramadan, on s'empresse d'aller manger un petit peu. C'était quoi sur le banc de touche? Vous savez, vous, Jeff, des dates?
Je n'ai pas vu. J'ai vu surtout boire. C'est parce que je pense que c'est surtout ce qu'ils cherchaient à faire. Mais je n'ai pas vu, effectivement, quels étaient les aliments qu'ils ont ingurgités.
Surprenant. Vous n'avez pas profité pour casser la croûte, vous, non?
Non, c'était assez léger.
Bon, surprenant, en tout cas. C'est vrai qu'on n'était plus habitué, évidemment, puisque ça se pratique généralement en cours de ramadan, durant quasiment toutes les saisons. On peut le voir sur les terrains, Jean-Charles.
Oui, c'est vrai que alors Jean-François nous confirme de l'intérieur qu'effectivement tout ça a été savamment orchestré. Et si on regarde les autres pelouses de Ligue 2, bah, c'est arrivé à d'autres endroits, entre le Paris FC et Ajaccio notamment, où je me suis amusé, je vais vous raconter ma vie, à revisionner du coup le premier quart d'heure. Je me suis dit, si c'est arrivé à Rodez, est-ce qu'il n'y a que Rodez qui a eu cette lumineuse idée ou est-ce qu'il y a eu d'autres clubs? J'étais à deux doigts de zapper sur un autre match et à la 13e minute, stupéfaction, le gardien de Paris, Nkambadio, s'assoit alors qu'il n'est pas du tout en action de jeu. L'arbitre, Monsieur Kerradji, interrompt le jeu et on voit Nkambadio alors se tirer le pied comme s'il avait des crampes à la 13e minute. Ça paraît un petit peu invraisemblable. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont forcément vers le banc de touche, mais il y en a quelques-uns et qui boivent et s'alimentent abondamment. C'est probablement un petit truc qui a circulé et que plusieurs clubs vont être en place. On risque de le revoir d'ailleurs lors de la prochaine journée, parce qu'on ne sera pas encore tout à fait passé
un
à l'heure
peu plus
d'été.
Tard, un peu plus tard.
Ouais, un petit peu plus tard.
Parce que du coup, c'est la période du Ramadan est calée sur les horaires du lever et du coucher du soleil. Donc, on verra comment ça va se dérouler, notamment dans deux semaines face à Troyes. Petite particularité, c'est le gardien qui simule entre guillemets cette faute. Est-ce que vous savez pourquoi?
Et oui, parce que c'est évidemment l'arbitre intervient tout de suite lorsque c'est le gardien qui se blesse, et donc aussitôt que le gardien s'y voit, s'est couché, mais assis plutôt sur le sol, et bien l'arbitre bien sûr intervient. Là, on est sûr que l'arbitre va couper la partie quand un gardien.
Et il y a une deuxième raison, un peu plus technique, mais c'est vrai que celle-ci est pas mal. On en a parlé avec Jean-Charles. C'est que le gardien ne peut pas sortir. Même s'il est blessé, il est obligé de réintégrer directement son équipe. Il ne peut pas patienter sur le bord du terrain. Et donc, du coup, l'arbitre ne sort pas de joueur de la pelouse.
Tout à fait.
Comme c'est le gardien. Le gardien peut donc rester sur la pelouse et reprendre le jeu en même temps que ses 10 autres coéquipiers. C'est pour ça que c'est généralement les gardiens qui se mettent en scène lors de ces actions-là. Voilà le pourquoi du comment.
C'est bien vu de votre part, Corentin. Parce qu'en direct, on n'a pas trop compris, mais vous l'avez vite compris dans la soirée. Moi, vous m'avez envoyé un texto. Au début, je me suis dit, il a trop bu.
C'est... Ouais. Et non. Et c'était juste une petite analyse.
Ce qui est intéressant, c'est que dans certains championnats, c'est réglementé cette affaire. C'est-à-dire qu'on repousse le début des matchs où on instaure une sorte de pause fraîcheur. En France, pays de la laïcité, il faut croire que c'est un peu compliqué. On sait que ça n'a pas été autorisé. Mais du coup, les arbitres, je pense, ont un regard bienveillant là-dessus. On n'imaginerait pas un arbitre...
Faire dépêcher tout le monde, évidemment. Je pense que ça serait malvenu et je pense même que certains arbitres doivent pratiquer le ramadan. Donc, certains doivent être évidemment bien contents de pouvoir eux aussi faire une petite pause.
C'est sûr.
Ça soulève quand même, et c'est la question qu'on se posait au départ en direct quand on a vraiment cru que Sébastien Sibois était blessé, la question du joker médical. Parce que si vraiment il était arrivé quelque chose de grave à Sébastien Sibois, pour l'instant, on est encore un peu en stand-by sur ce dossier. Didier Santini a été relancé samedi soir en conférence de presse là-dessus. Lui, visiblement, il est favorable à ce qu'on fasse venir un autre joueur, ne serait-ce que pour stimuler les gardiens à l'entraînement. Je ne sais pas si c'est le cas à tous les étages du club, mais Didier Santini a remis une pièce dans cette direction, semble-t-il, samedi. Donc on verra si la période de trêve internationale permet de faire avancer un peu plus ce dossier.
Rappelons que Lionel Mpassi est toujours blessé et out jusqu'à la fin de la saison et que le troisième gardien de Rodez devenu deuxième, Enzo Crombez, n'a toujours pas disputé la moindre minute en Ligue 2 BKT et donc forcément peut manquer en tout cas un peu d'expérience par rapport à ce poste-là de gardien de but. Voilà pour ces explications concernant la quatrième minute de la rencontre entre Rodez et Grenoble. On va s'arrêter maintenant sur une autre question que l'on vous a préparé, Jeff et Jean-Charles. Est-ce que Rodez, finalement, c'est pas une équipe tout simplement à réaction?
Totem, oui, c'est vrai que c'était une équipe le à... club sang et or.
Oui, c'est la question que l'on se pose, Jeff, cette oui. équipe de Rodez. Équipe à réaction ?
Équipe à réaction, effectivement. D'ailleurs, Clément Després expliquait bien cette approche de match, cette entame de mi-temps ou cette entame de reprise qui sont toujours compliquées. C'est une équipe qui est un peu diesel, une équipe qui a besoin d'un peu de temps, et c'est le mot qu'il a utilisé, diesel d'ailleurs, qui a besoin de temps pour se mettre dans la compétition et qui a besoin de prendre... C'est une équipe jeune, donc qui a besoin... C'est la deuxième équipe la plus jeune du championnat par rapport à l'équipe de Troyes qui est en tête de quelques mois, je dirais, en termes de moyenne. Donc cette équipe a besoin de rentrer dans la partie, de se faire bouger un petit peu, de prendre des coups de pied au derrière, comme le dit Santini. Et c'est souvent le cas, parce que cette équipe qui a été souvent menée au score et qui réagit à ce moment-là. En plus, c'est une équipe qui joue d'une façon particulièrement intermittente. Donc, on commence souvent doucement, on attaque, on revient. Il n'y a pas une continuité, un fond de jeu comme certaines équipes de cette division, comme Auxerre, comme Angers, etc. Des équipes qui vraiment ont tendance à dominer l'ensemble de la partie. Il y a aussi des sautes de concentration dues au jeune âge, je pense, qui fait que eh bien, on est un peu tranquille. Le coach donne des consignes de jouer vers l'avant aussi, ce qui peut aussi amener parfois des expositions défensives un peu délicates. Et puis une équipe qui est intermittente, hein, qui joue au paracou, on le voit, qui est une équipe de transition, c'est ce qu'on appelle, très forte dans ce domaine-là. Et qui donc a tendance à subir un petit peu les matchs en début de période.
Une stat, juste pour aller dans votre sens, Jeff, la minute du premier but encaissé en moyenne, c'est la 36e minute de jeu.
Pour Rodez ?
Oui, évidemment. Ouais. Le but encaissé contre Rodez, enfin, vous voyez ça comme vous voulez.
Ouais,
c'est Rodez qui prend le but, en tout cas, à partir de la 36e minute de jeu.
Bah, de toute façon, alors, effectivement, si on regarde les stats, Rodez, c'est l'équipe qui a pris le plus de buts en première mi-temps de toute la Ligue 2. Ce qui est quand même pas mal pour un cinquième. Être l'équipe qui a pris le plus de buts en première mi-temps, il y a même un péché mignon particulier. Vous disiez moyenne 36e, entre le quart d'heure et la demi-heure, c'est là où elle en prend le plus. Et à l'inverse, c'est la deuxième équipe à avoir pris le moins de buts en deuxième mi-temps. Donc clairement, c'est une équipe de deuxième mi-temps. C'est l'équipe qui marque le plus également en deuxième mi-temps. Et c'est l'équipe qui a pris le plus de points après avoir été menée. 15 points après avoir été mené, c'est une performance ex aequo avec Auxerre et Angers, qui sont deux compagnons de route plutôt flatteurs hein, en l'espèce.
De haut classement.
Ouais. Alors effectivement, Jean-François parlait de la jeunesse de cette équipe, c'est vrai que ça joue forcément là-dedans. Et alors je pense que leur nouvelle sérénité défensive va probablement contribuer à encourager ce comportement-là, parce que le coach le résumait l'autre jour, c'est une équipe qui ne panique pas, finalement, même quand elle est menée, parce qu'elle sait qu'elle va être dangereuse derrière. Et comme en plus, elle sait qu'elle peut subir un peu plus, parce qu'elle a une nouvelle solidité défensive quelque part, je pense qu'on n'est pas prêt de voir la fin de ce comportement un petit peu attentiste pour commencer les matchs.
Et ça, malgré les absences en défense. Hein, Eric Vandenabel qui s'était blessé lors de la première journée, Serge-Philippe Royao qui était suspendu pour cause de carton rouge ce week-end. Il a fallu évidemment faire quelques ajustements du côté de Didier Santini avec Stone Mambo qui s'affirme. Kevin Boma, c'est plus qu'une affirmation. Ça devient presque un incontournable du 11 type du côté de Rodez. Donc cette défense, avec le capitaine Bradley Danger, va plutôt bien, Jeff.
Ah oui, ça va plutôt bien. Pour corroborer tout ce que vous dites, il y a aussi un esprit vraiment d'équipe, mais qui dépasse l'équipe. Je m'entends par là que l'ensemble du groupe, les 21, 22, 23, 24 professionnels qui composent l'effectif, eh bien sont là lors de ce match. À la fin du match, eh bien, il y avait à les attendre à la rentrée des vestiaires. Eh bien, il y avait Royao, il y avait Vandenabel, il y avait Mpassi avec ses béquilles. Il y a même notre cher Park qui ne joue pas du tout, eh bien ils sont là, ils s'encouragent, ils vont faire la photo, ils vont dans les vestiaires. Il y a vraiment un esprit, une cohésion qui est très très forte que j'ai rarement vu dans une équipe rotinoise.
Vous le savez, il y a un rendez-vous qui est cher à Jean-Charles Vire-le-Jeu, c'est ce rendez-vous-là.
Je n'ai pas dit que tu étais un con, hein. Je dis que globalement la question elle est con.
Vous avez tendu la perche, Jeff. Ma question à la con finalement dans ce club sans ailleurs, c'est est-ce que l'on verra Park évoluer en Ligue 2 cette année au même titre que Grégory Coelho ? Est-ce que vous pensez que... on les verra sous le maillot sans ailleurs cette saison, en tout cas avec Rodez.
Alors, on ne les verra pas. Je pense qu'on ne les verra pas. Il faudrait vraiment une catastrophe cycloptimique au niveau de la défense pour qu'on puisse voir Grégory Coelho, qui est quand même en dessous un petit peu du groupe, mais qui est présent, je vous le rassure, à tous les entraînements.
Et souriant, c'est vrai, quand on le croise, Park, c'est pareil. Ouais.
Et Park, pareil. Moi, j'admire beaucoup leur résilience, ces garçons, parce qu'ils ne jouent pas. Ils savent qu'ils ne joueront pas. Ils sont là, ils sont aux entraînements, ils font leur taf. C'est vraiment surprenant. Non, je ne pense pas que Park non plus rentre dans les plans du coach. Ça sera vraiment très compliqué.
Peut-être, je me disais, si sur la dernière journée, il n'y a rien à jouer.
Je ne pense pas. Je pense pas.
À la rigueur, c'est le deuxième ou troisième gardien qui fait le dernier match. Ça s'est vu. Mais c'est vrai que des remplaçants qui n'ont jamais joué de la saison... ça sent un peu le roussi dans ces cas-là.
Et d'ailleurs, c'est pas un cadeau à leur faire parce qu'il manque totalement de
compétition.
Rappelez-vous de Laurent Perlade qui a fait jouer son fils, Alex, le dernier match de Grenoble, un match qui était décisif pour Grenoble, pas pour le Rodez Aveyron Football. Et ce malheureux Alex a commis un penalty assez ridicule qui a fait perdre le match à Rodez. Donc, je pense que voilà, on leur fait pas, c'est un cadeau empoisonné à mon avis.
On verra évidemment si ça se produit pour Park et pour Greg Coelho qui n'ont toujours pas, en tout cas, connu une seule minute de temps de jeu avec l'effectif Ligue 2 cette année. On va passer notre dernier sujet de discussion avec Jean-François Tefaut, avec Jean-Charles Vire-le-Jeu, Laurent Peyrelade et ce fameux retour, mais finalement donc un retour perdant. On a bien cru que dans un premier temps ils allaient la jouer différemment, ces Grenoblois, puisque c'est eux qui ouvrent le score à peine le quart d'heure de jeu terminé. Derrière, ça a été un peu plus compliqué pour les joueurs de Laurent Peyrelade, Jean-Charles.
Oui, même si c'est vrai qu'ils ont fait une bonne première heure, j'allais dire, jusqu'à ce que Rodez se réveille vraiment, jusqu'à la 50e. C'était un bon match, il l'a confirmé d'ailleurs, il était content, Laurent Peyrelade, de la prestation de ses joueurs. Ah, c'est vrai qu'on associe souvent quelques mauvaises langues, disent « ils ont pris Laurent Peyrelade à Grenoble, ça va être un jeu restrictif ». Finalement, pendant 50 minutes, on a quand même vu du beau jeu avec le ballon. 55% de possession à la fin du match, mais je pense que le pourcentage était probablement plus élevé à la mi-temps.
Oui, Laurent, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec lui, avant même qu'il arrive à Rodez, puisqu'on a échangé, il était très surpris. Il a été au courant, il m'a dit, tu m'aurais demandé ça 4 jours avant, j'étais incapable de te dire que j'allais venir. D'ailleurs, il était en formation à Limoges pour passer un diplôme. Donc, il était très très surpris de sa nomination. Il avait des liens quand même très forts avec Max Marty depuis longtemps, puisque je les voyais se côtoyer vraiment très amicalement lors de nos déplacements à Grenoble.
Les deux sont passés par Rodez.
Voilà, les deux sont passés par Rodez. Mais c'est vrai, c'était une grande surprise pour lui. Bien sûr, il a sauté sur l'occasion. Ça s'est d'ailleurs très bien passé, contrairement à ce qu'on a pu lire dans certaines presses avec le club. Il y a eu un jeu de rôle là aussi entre le président et lui. Ça fait un peu semblant de se haïr, de se détester, alors qu'ils s'entendent très très bien hors terrain, bien sûr. Et donc, pour lui, c'est quand même un bon retour, effectivement. On ne s'attendait pas à ce qu'il ait un rôle aussi actif, d'ailleurs, lors de ce match, puisqu'on avait annoncé que c'était les deux adjoints, Guéguen et compagnie, qui devaient coacher. Et c'est lui qui a coaché, vraiment, sur la rencontre, toute la rencontre. Moi, c'est un garçon que j'adore. Hein, et vous savez que je le regrette humainement. C'était, à mon avis, une bonne personne, comme on dit, avec une grande compétence. Jouer le maintien, il sait faire. C'est pour ça que Ronald l'a pris. Il connaît bien la division. Il connaît les exigences de la Ligue 2, BKT, et je pense que c'est une bonne pioche. Il n'était pas du tout catastrophé pour avoir échangé avec lui à la fin du match sur le résultat, sur la façon, et il est très confiant sur la façon de sortir cette équipe grenobloise.
Grenoble qui en tout cas enchaîne une 6e défaite d'affilée dans cette période pas si simple que ça pour les joueurs des Alpes.
Je plus sois sur ce que dit Jean-François, effectivement c'était très sympa de recroiser Laurent, effectivement, qui est un chouette type, comme l'est Didier Santini d'ailleurs, mais simplement pas avec la même personnalité, et on se posait la question retour perdant. C'est probablement effectivement un retour gagnant parce que, alors effectivement, je pense qu'avec le président, il y a toujours eu une bonne entente. Il y avait peut-être une certaine amertume vis-à-vis des joueurs d'avoir été un peu lâché par son groupe quand il est parti de Rodez. Et j'ai l'impression que il est davantage en paix avec ça. Il est un peu plus philosophe. Il a pris du recul. Il faut dire que un an et demi se sont écoulés depuis cette affaire. Et il l'a évoqué d'ailleurs très ouvertement en conférence de presse. Il dit j'ai digéré depuis longtemps. C'est bien normal. Je ne pouvais pas rester éternellement. Je suis déjà resté très très longtemps dans ce club de Rodez et j'aurais dû être viré bien avant si mes dirigeants n'avaient pas été d'une patience infinie. Donc c'était bien de le voir avec ce recul et avec cette de le voir en paix avec avec tout ça et prêt à une nouvelle aventure.
Oui, l'aventure, il l'avait déjà retrouvé, le goût du terrain avec Versailles, mais ça ne s'était pas très très bien passé, c'était en national effectivement. Voilà pour ce rapide débriefing de la rencontre face à Grenoble. Jeff,
oui, une petite parenthèse pour montrer la motivation du club et de l'équipe. Une petite anecdote, le déplacement de Troyes était prévu en quart. Il va se faire en avion finalement. Donc les dirigeants, pour des raisons économiques, avaient décidé de faire l'impasse sur ce déplacement, ou alors vraiment de le faire en avion s'il y avait maintien, nécessité de maintien. On ne peut pas dire qu'il y ait urgence pour le maintien. Et les dirigeants ont cédé quand même à la pression des joueurs et du coach pour faire ce déplacement en avion.
Les dirigeants veulent peut-être finalement jouer un peu les barrages eux aussi.
Ouais. Ça reste à voir, effectivement. En tout cas, le prochain rendez-vous pour les Ruthénois, ça sera le 30 mars prochain à 3 pour la 30e journée de Ligue 2 BKT. Et on y sera évidemment avec Jeff et avec l'intégrale 101. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans cette intégrale 101, dans ce club 101 un peu particulier, un peu spécial en raison de la trêve internationale. Heureusement, vous n'êtes pas partis avec vos sélections respectives. Vous êtes bel et bien avec nous pour cette analyse de rencontre. Merci beaucoup et bonne soirée. On se retrouve maintenant dans une grosse semaine, ouais, le 30 mars prochain à 3. Bonne
merci
soirée.
Merci Corentin.
Bonne soirée.
Totem, le club 100 et or.